VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, une femme kamikaze s'est fait exploser ce matin dans la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord, où des djihadistes nigérians de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Une seconde kamikaze a été tuée par l'armée avant d'actionner sa charge, selon des sources militaires. Davantage de précisions avec John Lyndon.
Autour des 6h30 GMT, deux jeunes kamikazes se sont introduites dans la ville de Mora dans le but de se faire exploser, mais elles ont été repérées, a déclaré sous couvert d'anonymat un responsable militaire. Une des kamikazes s'est faite exploser, blessant la seconde qui finalement a été abattue par des militaires du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise en première ligne dans la lutte contre les djihadistes nigérians. Le jeudi est traditionnellement jour de marché à Mora, ville stratégique dans le dispositif de lutte contre Boko Haram. Elle abrite notamment le quartier général du premier secteur de la force multinationale mixte, composé d'une demi-douzaine de pays engagés dans la lutte contre Boko Haram.
En RDC, le gouverneur du Tanganyika a appelé au calme ce jeudi après de nouveaux affrontements meurtriers entre Bantous d'ethnie Luba et des Pygmées de l'ethnie Twa dans cette province du sud-est du pays. Joint par téléphone à Kalemie, capitale de la province par l'AFP, Richard Ngoy Kitamala a reconnu qu'il y avait régulièrement des affrontements sporadiques entre Pygmées et Bantous dans la région. Mais il a qualifié de rumeur les informations sur une tuerie dans la localité de Mouswaki, à 70 km à l'ouest de Kalemie. José Boulaboula, secrétaire provincial adjoint des jeunes du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, formation politique du président congolais Joseph Kabila, confirme qu'il y a eu mardi à Mouswaki une attaque des Pygmées et des représailles des Luba le lendemain. Des actions qui ont fait plusieurs morts, selon M. Boulaboula. Au Rwanda, le gouvernement réclame des excuses du Vatican pour le rôle des catholiques dans le génocide de 1994 au pays des mille et une collines. Kigali a jugé profondément inadéquates les excuses présentées dimanche dernier par l'Église catholique rwandaise. Éric Manirakiza.
C'est dans un communiqué que Kigali a clarifié sa position. Le gouvernement rwandais estime que le Vatican lui-même devrait demander pardon pour le rôle de certains de ses membres lors du génocide rwandais de 1994. Par conséquent, le pays des mille et une collines rejette les excuses présentées dimanche par l'Église catholique locale dans une lettre lue aux fidèles dans les églises du pays à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Les évêques des neuf diocèses du Rwanda demandent pardon pour des individus et non pour l'Église en tant qu'institution. Le président de la commission épiscopale rwandaise, Mgr Philippe Rukamba, a précisé le lendemain que l'Église n'a pas participé au génocide, une réaction qui a choqué Kigali, qui la juge profondément inadéquate. Selon le gouvernement, les excuses des neuf évêques rwandais mettent uniquement en lumière la distance qui sépare l'Église catholique d'une reconnaissance complète et honnête de ses responsabilités morales et légales, et de souhaiter des excuses du Vatican qui seraient amplement justifiées.
Au Burundi voisin, le gouvernement burundais a déclaré ce jeudi ne pas se sentir concerné par le travail que vont faire les trois membres de la commission d'enquête des droits de l'homme, nommés mardi par Choi Kyang-lim, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les intéressés, un Algérien, un Béninois et un Britannique, ont pour mandat d'entrer en contact avec les autorités burundaises et d'autres parties prenantes pour leur apporter l'expertise nécessaire pour l'amélioration des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité au Burundi. Le ministre burundais des droits de l'homme, Martin Niviabandi, dit que Bujumbura n'a pas été consulté concernant la nomination des experts en question.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nigeria, Amnesty International accuse les forces de sécurité nigériennes d'avoir réprimé dans le sang des manifestations pacifiques pro-Biafra dans le sud-est du pays, entraînant la mort d'au moins 150 personnes entre août 2015 et août 2016. Pour Samira Daoud, la directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'usage de la force a été disproportionné.
C'est clairement une opération visant à semer la terreur et à réprimer de manière meurtrière. Il ne s'agit pas de cas isolés, il ne s'agit pas de bavures, il s'agit véritablement d'ordres qui auraient été donnés. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté sur le terrain, où les militaires sont venus pour clairement finir avec les manifestants.
Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Irak, l'étau se resserre à Mossoul sur le groupe État islamique, quasi encerclé par les forces irakiennes qui doivent encore remporter une bataille urbaine âpre contre les djihadistes. Bagassi-Koura, c'est une bataille en présence de centaines de milliers de civils pris au piège.
En première ligne, les unités du contre-terrorisme irakien continuaient de progresser rue après rue dans l'est de Mossoul, malgré la résistance féroce de l'ennemi 5 semaines après le début de l'offensive pour la reconquête de cette métropole du nord du pays. Après avoir repris le quartier d'Aden, les troupes d'élite se battent désormais dans la zone voisine d'Al-Qadra, a confié un combattant à l'AFP. Mercredi, les forces irakiennes sont parvenues à couper la voie d'approvisionnement du groupe extrémiste sunnite entre Mossoul et Raqqa. Raqqa, son fief en Syrie, à quelques 400 km à l'ouest et où une coalition arabo-kurde cherche parallèlement à chasser les djihadistes.
Politique aux États-Unis maintenant, le président élu Donald Trump a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation en nommant mercredi au poste d'ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, et une autre femme, Betsy DeVos, au ministère de l'Éducation. Le milliardaire républicain pourrait aussi annoncer la nomination de son ancien rival à la primaire républicaine, Ben Carson, un noir, au poste de ministre du Logement. Par ailleurs, les Américains célèbrent aujourd'hui le Thanksgiving, la journée d'action de grâce, journée fériée et chômée où on se retrouve en famille et entre amis pour partager la dinde traditionnelle. Le reportage d'Arzuma Compaoré.
Plus qu'une fête nationale, le jour de l'action de grâce, plus communément connu sous le nom de Thanksgiving, est un jour très spécial pour les Américains. À cette occasion, en groupe ou en famille, on se rassemble pour partager un repas de gratitude. Françoise Ntolo, originaire du Cameroun, fait partie des volontaires de cette année au repas offert par le Safeway Feast of Sharing.
Pour moi, Thanksgiving, c'est un peu comme les Américains. C'est une occasion pour moi de dire merci Seigneur, merci, remercier Dieu pour tout ce que j'ai dans la vie. En tant qu'Africaine, c'est aussi une opportunité pour moi de dire merci pour ma famille, merci pour tout le monde. Ma famille au Cameroun ne connaissent pas Thanksgiving, mais je les appelle quand même. Certains Camerounais, quand je vais, ils font du poisson braisé, ils font la Thanksgiving à l'africaine. Je sais pas, il y a eu certains immigrants qui sont venus aux États-Unis. C'est eux qui ont apporté la fête et en tant qu'immigrante, moi aussi, je célèbre.
Une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre, de patates douces, d'une gelée de canneberge et une tarte à la citrouille, ce sont là les éléments de base d'un repas de Thanksgiving. Un tel repas coûterait à peu près entre 50 et 60 dollars. Et quand on est toute une famille, cela peut vite devenir coûteux. Pour ne laisser personne en marge, beaucoup d'organisations caritatives offrent un plat chaud à tous ceux qui se présentent. Pour l'armée de volontaires, chaque plat servi est un rappel qu'ils font la différence dans la vie d'une personne.
Docteur Hélène Collen, psychologue dans la ville de Washington, D.C.
Beaucoup d'Américains se portent volontaires pendant Thanksgiving. Il y a des gens qui vont donner un coup de main dans les cuisines ou dans les centres d'accueil des sans-abri. D'autres donnent de la nourriture. C'est surtout prendre le temps de penser aux autres, à des personnes qui sont dans le besoin.
Rappelons que si la Thanksgiving est aujourd'hui un moment de gratitude pour tous, elle rappelle aussi le rôle joué par les Amérindiens lors du tout premier Thanksgiving américain organisé par les premiers pèlerins en remerciement aux Indiens qui leur ont sauvé la vie. Arzuma, Compaoré, VOA, Afrique.
Et pour terminer, la Colombie signe ce jeudi avec la guérilla des FARC un accord de paix mettant fin à plus de 50 ans de conflit armé. Texte renégocié pour inclure des propositions de l'opposition suite au rejet d'une première version du traité par référendum. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.